Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Par Jupiter, c'est parti les amis, on se réveille.
Hey. Vous êtes sur FIP.
Ouais, j'aime bien un changement de voix.
L'émission de nuit.
Mmh. On s'entend bien ensemble.
Merci. Merci Laetitia Gaillet.
Ouais.
Nous avons réécouté l'émission. Non, on n'est pas faite pour ça. Ni vous ni moi, je vous le confirme.
Je confirme.
Oh, ça va, vous. Ça va. Ça va, ça va. D'abord, réécoutez-vous hier et puis on en reparle. Aïe. Voilà. Salut les amis.
Salut Charline.
Alex, ça va?
Oui, ça va. Enfin, non, ça va pas. Hein? Vous croyez que je l'ai pas vu votre petit manège?
Quoi? Quel manège?
Ah bah je sais pas. Je vous pose la question.
Mais enfin.
D'abord, comment ils sont choisis les invités dans l'émission?
C'est pour leur parcours, bah, leurs engagements.
Ah, oui. Bah, il me semble que non, parce que Max Bird, comment ça s'est passé? Il l'a dit hier.
Si je l'ai rencontré il y a pas si longtemps en boîte de nuit.
Comme ça, nos auditeurs savent comment on sélectionne. Ils nous demandent souvent comment est-ce que vous choisissez vos invités. Si vous croisez Juliette, n'hésitez pas à vous faire inviter.
Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans l'émission phare de France Inter. On invite les gens qu'on croise en boîte de nuit.
Non, je propose un pacte. Tu dis rien sur les invités, puis nous, on dit rien sur tes vannes comme celle-là. Hein.
Juste après que l'Irlande ait dit oui à l'avortement, elle s'est fait bien baiser.
Merci pour cet instant de poésie, délai bref.
J'admets, c'est pas la plus fine.
Ça, c'était pas la plus fine.
Bah non, mais je l'ai admis. Mais vous m'empêcherez pas de penser qu'il y a un complot contre moi.
Un complot, t'es malade.
Bah, bien sûr. Et même toi, Guillaume, t'en parles des
quoi
complots.
Le complot des escaladeurs maliens.
C'est pas un complot, ça.
Attention, Alex, derrière toi.
Mais non, ce malin, il y a personne.
Ça n'existe pas.
Les reptiliens, ça n'existe pas. Bah c'est pas ce qu'il a dit notre invité.
Moi j'y crois, j'ai envie de penser qu'il y a des vélociraptors parmi nous.
Eh oui, ils sont parmi nous. Et je pense qu'ils utilisent un langage assez bizarre comme celui-ci par exemple.
Et cui-cui.
Mais ça veut dire quoi ce cui-cui? C'est un nom de code. Vous voulez me dire quelque chose? Il y a un message?
Oui, Alex, on a un message pour toi.
Prends un dafalgan.
Voilà, et fais une sieste.
Vous voulez me désintégrer pendant la sieste? C'est ça?
C'est ça, c'est exactement ça.
Bonjour la France Inter, vous écoutez Par Jupiter, un produit de l'entreprise Radio France, disponible en ondes courtes, en podcast ou en spray. Et voici l'actualité, disponible en 3 parfums. Qui pour succéder à la tête de l'Empire Dassault? Oh là 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 là, ça c'est la question
suspense.
Que toute la France se pose. Car la France n'est plus un empire, mais elle abrite des empires économiques avec des héritiers chargés d'entretenir le sens des valeurs.
Moi, de toute façon, travailler, ça m'intéresse absolument pas. En plus, vu que mes parents sont milliardaires.
Le cirque Pinder, placé en liquidation judiciaire depuis le début du mois, a un nouveau signe de mauvaise santé du cirque itinérant. On se demande si ce patrimoine est en voie d'extinction. D'extinction.
Allez, reprenez. Par Jupiter, 2 sur 4, on l'a
retrouvé. Trouvera-t-il sa survie dans le cirque sédentaire?
Le lion ne s'associe pas avec le cafard.
Ah, visiblement non. À Londres, les artistes de rue peuvent se faire payer par carte sans contact. L'excuse du « j'ai pas de monnaie » ne tient plus. Et puis bon, c'est ni monnaie ni carte. Bon, ce sont des saltimbanques qui sont très ouverts.
Tu payes avec ton énergie spirituelle et... tu vois, en fait, je sais pas, mais c'est un truc qu'on est tous OK avec ça. Tu vois, ton salaire, c'est ton expérience, tu vois.
Lui, il accepte les chèvres pas. C'est Alex Bizarek.
C'est vrai. Bonjour, Charline Balounaker. Et aujourd'hui, pour présenter l'équipe, une autre musique. Aujourd'hui, sous notre chapiteau le plus incroyable des cirques radiophoniques, vous entendrez des choses que vous n'aurez jamais vues ailleurs, et notamment à 17h20. Un exceptionnel contorsionniste de la chronique, car vous ne comprenez pas comment il se retrouve là. C'est Thomas Bidguin. Bonjour.
Hey, bonjour. Oui, il est là. Il est revenu une fois de plus.
Et
il
de quoi
va vous
émerveiller
avec sa chronique. Car sa chronique aujourd'hui parle de la solitude du héros.
Très bien. À 17h30, notre dompteur de fauve, car oui, il est capable à l'aide d'un micro de faire passer les Français dans des cerceaux de feu.
C'est vrai.
C'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, je vais vous parler de la loi alimentation et j'ai même rencontré des députés de la majorité qui ne votent pas exactement comme on leur dit, notamment une frondeuse.
Une frondeuse relative, oui.
Voilà, une frondeuse relative, parce qu'à la fin, elle va voter quand même.
Et à 17h40, le plus grand clown franco-espagnol de sa génération, capable de se maquiller en homme de droite, la fusion parfaite entre Achille Zavata et Éric Zemmour, c'est Pablo Mira. Bonjour.
Oui, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Thomas.
Hello.
Guillaume. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, malgré la perte des droits télé de Ligue 1, je vous dirai pourquoi pour moi, Canal Plus reste une chaîne attractive avec des émissions phares comme Quotidien, Burger Quiz.
Pas Pablo, c'est sur TMC ces deux émissions.
Et je dois aller vérifier quelque chose sur Internet, Alex. Je reviens dans pas longtemps.
Très bien. Et je vous repasse la parole, Charline.
Oui, et je me tourne donc vers celui que Juliette a croisé en boîte de nuit hier soir pour se faire inviter. Vous grandissez au cirque d'hiver à Paris, car vous êtes issu d'une famille de 7 générations de circassiens. Vous apprenez le dressage des animaux et à 16 ans, vous quittez votre famille et créez votre propre cirque. Vous sillonnez la France d'abord avec aussi vos tigres, vos lamas, des chevaux, des chèvres ou des vaches aussi, ai-je lu. Jusqu'en mai 2017, où vous renoncez d'un coup au spectacle avec des animaux. Vous placez les vôtres dans un refuge et poursuivez votre route de circassien moderne et écolo. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
André-Joseph Bouglione.
Oui,
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
C'est vrai que ça met un autre rythme cette musique.
Mais, c'est autre chose, tout de suite, c'est bonne énergie.
Ah, tout de suite, il y a une énergie, on se rendait pas bien compte. Bienvenue André-Joseph Bouglione. Vous venez nous voir avec votre cirque qui est un écho.
Un éco-cirque.
Et votre livre aussi, qui s'appelle « Contre l'exploitation animale », paru aux éditions Tchou. D'abord, vous avez eu un déclic, parce que d'un coup, vous avez décidé.
Ça ne s'est pas passé comme ça en un seul coup.
Ça, c'est la légende. Parce que la légende dit que vous êtes tombé sur une manif de militants animalistes avec ce panneau « Oui au cirque sans animaux ». Et finalement, ce « oui » vous a fait dire « Tiens, ils ne sont pas contre le cirque, ils aiment, mais ils préféraient sans animaux ».
Oui, effectivement. Mais bon, ce n'est pas l'élément unique. Il y en a eu plein. Notamment le fait de recevoir des visites après les spectacles de parents qui venaient avec leurs enfants nous parler, nous expliquer la gêne ressentie, le mal ressenti face à l'exhibition d'animaux. Alors, ce qu'il faut savoir, le cirque en lui-même, on dit qu'il est traditionnel, mais moi, je ne pense pas, en fait. Ce qui est traditionnel, c'est la façon du public de consommer le cirque. Donc, il faut savoir un truc. En général, les enfants, les parents les amènent au cirque. Et quand ils grandissent, ils ont eux-mêmes des enfants et veulent leur faire connaître un petit peu ce rituel de l'enfance, comme eux ont vécu enfants, de les amener au cirque. Sauf qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un décalage qui s'est fait dans la société. Et finalement, les gens qui n'ont pas encore fait cette prise de conscience s'en sont rendus compte parfois chez moi, au moment d'envoyer les lions et les fauves en cage ou les éléphants dans la piste. Et souvent, ils me le disaient. Voilà.
Guillaume avait une question sur les chevaux, je pense.
Oui, j'ai une question sur les chevaux, parce que c'est vrai que moi, je suis évidemment complètement d'accord avec vous. Et on m'a fait la réflexion, il y a une compagnie de circassiens équins, je ne sais pas comment on dit, quel est le terme. Équestre, ouais, qui m'a dit, oui, mais les chevaux, quand même, c'est un animal qui est habitué à l'homme, ça se laisse trimballer facilement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que je pourrais leur répondre pour leur clouer le bec?
Eh bien, déjà, ils n'ont pas tort. C'est vrai que le cheval vit en symbiose avec l'homme depuis plusieurs milliers d'années. On dit bien la plus noble conquête de l'homme. C'est compliqué pour les animaux domestiques, surtout pour les chevaux, parce que est-ce qu'on peut vraiment les remettre à l'état sauvage? Est-ce qu'il existe encore des chevaux à l'état sauvage? Voilà le problème aussi. Est-ce qu'il y a encore de l'habitat pour eux?
Vous en aviez avant dans votre cirque?
Oui, bien sûr. Et vous savez quoi? En fait, j'en ai eu tout le temps, toute ma vie. Et je vois pas la différence encore maintenant, parce que j'ai travaillé avec tout type d'animaux, des chevaux, des tigres, des lions... Et je ne vois pas la différence en réalité. Quand on travaille avec eux, quand on vit avec eux en fusion, comme nous vivions avec eux, eh bien, on voit pas la différence, en fait.
Ouais. Et votre éco-cirque, alors André-Joseph Bouglione, comment ça se passe? Vous passez un pas en plus. Déjà, il y a le cirque sans animaux, 100% humain, dites-vous.
Ouais.
Et vous allez un cran plus loin en imaginant de partir avec des containers sur des trains, par voie fluviale.
Exactement.
D'être autonome en énergie. Donc, il y a une volonté pédagogique, j'imagine. C'est viable, ça? Comment vous faites en tant qu'itinérant avec ce projet?
Eh bien, déjà, au départ, on est parti d'une feuille blanche. On a pris le métier tel quel et on a regardé chaque point qu'on pouvait améliorer, notamment le transport, la production d'énergie, enfin des tas de choses. Et ça fait partie des solutions qu'on va expérimenter. Elles sont juste expérimentales. Si ça se trouve, on trouvera mieux dans quelques années. Pour l'instant, on va essayer comme ça. L'avantage avec les containers, c'est que c'est déjà du recyclage en soi, puisque les containers maritimes font actuellement le tour du monde sur des bateaux en transportant des marchandises diverses. Eh bien, on va en prendre une quarantaine pour fabriquer le transport de l'éco-cirque. Ces containers vont nous permettre de voyager par voie fluviale ou par ferroutage. Et ça va aussi nous permettre de ne pas avoir à acheter 40 camions Ce qui a déjà un poste de dépense assez conséquent et puis surtout donne un impact directement. Quand on allume 40 camions le matin, je peux vous garantir que ça fait beaucoup de fumée.
Vous êtes issu d'une des plus grandes familles, évidemment, circassiennes françaises. Comment vous êtes vu par les autres qui font peut-être encore du cirque dit traditionnel? Est-ce que vous êtes le marginal? Est-ce que vous intriguez
ou... Ben, j'ai l'impression qu'ils ont pas encore compris ce qui se passait.
Non, mais ils vous appellent pour comprendre ou ils trouvent que vraiment vous mettez un coup de canif dans l'idéal circassien?
Ben en fait, le coup de canif dans l'idéal circassien, pour moi, à mon avis, c'est plutôt eux qui le donnent, puisque finalement, les chiffres me donnent raison aujourd'hui. Ce que je dis depuis un an, regardez des grands cirques historiques comme Pinder, Amar et le Cirque d'Hiver qui ne tournent pas au mois de mai. C'est actuellement ce qui arrive en ce moment-là, ça n'est jamais arrivé depuis la Libération. Voilà. Et bon, on peut accuser tout. On peut accuser le gouvernement, on peut accuser la crise économique, les attentats. Mais on peut aussi éviter, comme ils le font soigneusement, d'éviter du vrai problème qui fâche, c'est-à-dire la réalité, la présence d'animaux dans les pistes.
Il y a une querelle des anciens et des modernes à ce sujet. On va y revenir puisqu'on a choisi de traiter un sujet sur l'avenir du cirque et ses nouvelles formes aujourd'hui. Et il y a une partie des réponses à toutes ces questions, bien sûr, dans votre livre André-Joseph Bouglione, qui est paru aux éditions édition Tchou, qui s'appelle ce livre « Contre l'exploitation animale ». André-Joseph Bouglione est avec nous jusqu'à 18h. On va parler héritage des grandes familles, cirque, saltimbanque dans la rue. Il y aura Bideguin et Mira aussi avec nous.
Au programme.
Inter par Jupiter, il est 17h21 et nous sommes en compagnie d'André-Joseph Bouglione, son éco-cirque et son livre contre l'exploitation animale aux éditions Tchou. On va y revenir tout à l'heure pour entourer André-Joseph Bouglione.
Une belle bande de clowns, je vais vous dire. On a Thomas Bidguin, on a Guillaume Meurice,
voilà,
on a Pablo Mira.
Jamais.
Comment passer à l'information tout de suite, évidemment.
Qui saute pas n'est pas Macron.
Le journal de presque 17h17.
J'ai sauté, mes frères, et je me suis fichu par terre.
Et on commence par les titres.
À Paris, un campement de réfugiés a été évacué par la police. Les migrants ont été provisoirement hébergés dans des gymnases.
Des gymnases où on a installé des murs d'escalade afin de déterminer qui pourra être naturalisé.
Compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon, le parquet de Paris ouvre une enquête pour des vérifications.
Mais pourquoi il l'embête? À 600 000 euros près, ils sont bons ces comptes.
Et des brèves?
Oui, personne n'a démantelé mon camp de brèves.
Et justement à Paris, le plus important campement de migrants qui se situait porte de la Villette a été évacué ce matin.
Le gouvernement, il vide les ZAD, il vide les FAC, il vide les campements. Et c'est vrai que c'est plus simple que de vider les pôles emploi.
Gouvernement, toujours, Nicolas Hulot s'est déclaré déçu que l'interdiction du glyphosate ne figure pas dans la loi.
Pauvre, si seulement il avait le numéro de téléphone du ministre de l'écologie pour pousser une gueulante, évidemment.
À gauche, le parquet de Paris ouvre une enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon menace de rebaptiser son parti la Finance Insoumise.
À gauche toujours.
Oui, aujourd'hui dans l'hémicycle, Annie Genevard, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre du parti Les Républicains, a rappelé à l'ordre François Ruffin de la France Insoumise en lui demandant...
La chemise dans le pantalon, s'il vous plaît. Merci.
La chemise dans le pantalon, évidemment, et elle a raison. Ça sert à quoi demander aux Français de se serrer la ceinture si c'est pas pour faire tenir la chemise dans le pantalon?
Économie. Le trafic de drogue génère 2,7 milliards d'euros par an en France.
Laetitia Hallyday est à deux doigts de demander le dealer de Johnny en mariage.
Drogue toujours. Oui. Carrefour ne sera plus sponsor du Tour de France en 2019.
Et oui, une décision salutaire pour les cyclistes mal à l'aise parce qu'ils devaient répondre au slogan avec Carrefour « Je positif » et ils n'étaient pas sûrs.
International, à présent aux États-Unis, la chaîne Starbucks ferme 8000 cafés le temps d'une formation contre le racisme.
Espérons que la formation ne soit pas conduite par un noir, parce qu'ils ne conduisent pas bien ces gens-là.
Enfin Alex...
Alors on ne peut plus rien dire. Bon allez, je vais suivre la formation Starbucks.
Ouais, bah okay, ça, okay. Très bien, ouais, comme ça vous ferez la différence entre un noir et un café au lait. Puis ça sera bien.
Oui, c'est ça.
Allez, culture, oui. Avec cette belle métaphore.
Oui, un détenu de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc a profité d'une sortie culturelle pour s'échapper. Ce qui confirme que la culture permet de s'évader, dans tous les sens du terme.
Culture toujours.
Culture toujours. Cyril Hanouna a dévoilé son hymne pour la Coupe du Monde. On va la pécho.
Ah ouais.
Oui, c'est bien écrit.
C'est pas mal.
Et qui pensait qu'un jour on allait regretter l'hymne de Johnny pour la Coupe du Monde 2002. Bravo l'artiste.
Mais il y a aussi une bonne nouvelle en musique quand même.
Oui, on a appris que les Kids United se séparaient. Merci les gars.
Aux États-Unis, la série télé Roseanne est annulée en raison des tweets racistes de son actrice principale.
Ouais, série ultra populaire et ça se serait jamais arrivé en France, je crois.
Quoique l'actrice d'une série tweet des trucs
racistes. Non, qu'on annule une série. Julie Lescaut avait 22 saisons. Je vous rappelle.
C'est vrai. Allez, les brèves.
Oui, Isère, ils droguent leur voisin lors d'une soirée couscous pour le détrousser. Florian Philippot avait essayé la même chose l'an dernier pour récupérer le Front National, mais ça n'avait pas fonctionné non plus.
Et la dernière.
Et la dernière, Indonésie, une créatrice de mode musulmane condamnée à 18 années de prison, alors que la personne qui habille Guillaume Meurice est toujours en liberté.
Et André-Joseph Bouglione étant notre compagnie, on va aborder avec vous ce premier sujet. Le décès de Serge Dassault et les questions sur sa succession à la tête de l'Empire nous rappellent que la France est composée de dynasties économiques telles les Arnaud, les Bettencourt, les Lagardère, les Bouygues. C'est la une du magazine Marianne cette semaine d'ailleurs. Extrait de l'article.
Est-ce que je peux savoir à quoi vous pensez?
À la manière de prendre le contrôle d'une compagnie dont le siège est à Denver.
Les choses sont mal engagées, comment allez-vous faire?
Je suppose que je vais devoir épouser cette dame.
Ah, c'est pas rêvé.
Ah là là.
C'est Dynasty, série diffusée sur la chaîne de la Dynasty Bouygues, donc. c'était la une de Marianne cette semaine. Alors, André-Joseph Bouglione, la France, est un, donc on comprend un pays de grandes familles à la tête de grandes entreprises qui génèrent des héritiers pour lesquels, là, ça tombe tout cuit dans la bouche. Vous êtes d'accord avec ce postulat? Vous remarquez ça?
Oui, tout à fait, c'est un fait. Après, on a tout à fait le droit de prendre l'initiative, de ne pas attendre que ça nous tombe dans la bouche, et puis essayer de se débrouiller par soi-même aussi.
Il y a des gens de votre génération de circassiens qui sont partis et qui ont fait tout autre chose?
Non, c'est rare.
Non, parce que dans le cirque, il y a vraiment un peu le côté on doit continuer, quoi.
Il y a un atavisme, en fait, et puis il faut dire ce qui est, c'est un métier séduisant. Donc quand on est enfant et qu'on est né là-dedans, on est un peu conditionné, il faut dire la chose. Moi-même, j'ai été victime de ça. J'ai jamais pensé à faire autre chose que du cirque, pour tout vous dire. Donc forcément, je suis conditionné dans ce sens-là.
Oui. Pour les grandes entreprises, l'expérience montre que généralement, c'est la troisième génération qui fout tout par terre.
Mmh. Ah ben là, je suis la sixième. Ça,
parce que vous considérez que vous considérez que vous êtes l'un des fossoyeurs, donc quand même pas.
Non, pas du tout. Mais
au contraire, bien sûr. Mais il y a un adage. Il y a des dans les grandes familles comme ça de siècles, parce qu'à part les grandes familles économiques qu'on a citées, hein, les Arnaud, Lagardère, etc. Finalement, dans quel autre domaine il y a des empires peu,
dans plein de domaines.
Cinéma,
je connais des gens qui bossent avec les Audiard. Bon ben voilà. Ouais.
Dans la musique aussi, regardez les Chédid. Enfin voilà, ouais, c'est très courant en fait. Hein. C'est normal.
Et votre héritage, à vous, votre nom, est-ce que c'est un atout, un fardeau? C'est les deux? Est-ce que
un peu les deux?
Ouais.
Un peu les deux. C'est un fardeau quand on continue à faire comme tout le monde, et puis ça peut être un atout quand on essaye de changer un petit peu le paradigme, quoi. Mm-hmm. Ouais.
C'est vrai chez les bouchers, c'est vrai chez les notaires, parce qu'on là on donne des métiers de lumière, mais c'est vrai qu'on a regardé
pizzeria, les pizzerias, les pizzerias,
de père en fils, c'est un mot qui est sur plein de frontons de plein de magasins en France.
Il y a un seul métier qui échappe en fait, c'est humoriste.
C'est vrai,
parce que ça sert à rien de le fils de quelqu'un de drôle si on n'est pas drôle.
C'est Nicolas Bedos.
C'est le seul contre-exemple, il fait pas de scène, Nicolas Bedos.
Il est drôle, mais il est drôle.
Il est drôle,
salaud.
Et autour de cette table, sur le sujet en général, et cette une de Marianne, donc, qui a fait un dossier sur le sujet des grandes familles d'héritiers, en disant que c'est une sorte de passion française d'avoir...
Ça, je suis pas sûr, l'héritage, par principe, c'est un truc vraiment humain, que ça passe par des biens, de la propriété ou un héritage culturel. J'ai l'impression que c'est un vrai truc.
Qui passe dans les mains à chaque fois de la même famille, avec des fortunes colossales quand même.
On est un pays aristocratique encore, donc voilà, l'aristocratie est au pouvoir.
Mais quel pays ne l'est pas en vrai?
Bah oui.
L'Ouganda.
J'ai la page Wikipédia de l'Ouganda sous les yeux, et ça tombe bien.
Avec autant de dynasties.
Ah oui, si, il y a des grandes.
Non, mais la transmission, c'est un truc quand même qui existe.
On va pas parler
longtemps.
Des MST, Thomas.
Vous êtes en train de nous dire que.
Alors, je n'ai pas valide. Alors, mon commentaire.
En train de nous dire que le dossier de Marianne est pourri, quoi.
Non, mais c'est intéressant.
Il y en a des pourris, Marianne, pas celui-là.
Allez, André-Joseph Bouglione est avec nous. Et à côté de vous, il y a Thomas Bideguin, le spécialiste de ce qu'on appelle en bon français le storytelling.
Et voilà, donc j'imagine que c'est à moi. Donc voilà, on y est. Et une fois de plus, c'est donc à moi. Et je reviens fier et tonitruant comme ces orages qui bombardent Paris chaque soir. Des orages tellement impressionnants que le plan banlieue n'a pas réussi à passer entre les gouttes. Des orages tellement impressionnants que Nicolas Hulot a des éclairs de lucidité. Des orages tellement impressionnants que Bellemare lui-même a fini par déborder. Des orages tellement impressionnants que Vizorek croit à nouveau au coup de foudre. Des orages tellement impressionnants que Gérard Collomb distribue des parapluies aux migrants. Non, ça c'est une blague. Non, alors, voilà, enfin, c'est dans cette apocalypse quotidienne que je reviens une fois de plus pour parler de storytelling. C'est ça que je fais ici, je parle de toutes ces petites balles neuves de récits que regardent rebondir sur la terre battue de la réalité des arbitres du monde, les jugeant in ou out depuis leur chaise haute, présidant ainsi aux jeux 7 et match de nos grandes histoires. Il y avait peut-être un point là, quelque part. Bon, c'est le storytelling. Voilà. Et le thème du jour, c'est la solitude du héros. Car oui, dans les histoires, on aime les héros. On aime les héros solitaires. C'est comme ça. La radio, le cirque ou le cinéma, ce sont des sports collectifs. Mais le héros, lui, on l'aime solitaire. Le public n'adore rien tant que ces personnages affrontant seuls un système défaillant. C'est Irene Brockovich, c'est Rambo, mais ça peut aussi être Vincent Lindon, si le Carloge est situé pas trop loin de la Pointeuse. Ou Emmanuel Macron. Ou Emmanuel Macron qui se bat seul contre un système défaillant, celui de l'ancien monde. Il se bat seul contre ce système défaillant des banquiers. Non, contre celui des énarques, non. Contre celui des brutalités politiques, non. Enfin bon, on ne sait plus. Mais bon, les histoires, c'est important dans les histoires d'apparaître seul. Seul contre tous. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas les systèmes défaillants qui manquent. Même Gérard Collomb en convient, qui considère que les manifestants sont un peu complices de la violence des Black Blocs. Il faudrait que les citoyens désormais fassent eux-mêmes respecter l'ordre. C'est la théorie dite de Charles Bronson. Celle du justicier dans la ville, celle du système défaillant. À l'instar de son aïeul Christophe, Gérard a donc enfin un peu découvert l'Amérique. Et on se souvient avec nostalgie de cette époque où les Français, loin d'être complices du désordre, aider méticuleusement la police à effectuer son travail en écrivant à la commande en tour. Quelle bonne idée de demander à chacun de redevenir un héros. Et c'est peut-être une idée de notre président, parce que lui, on a l'impression quand même que tout ce qui lui passe par la tête, eh ben, ça finit toujours par ressortir par le côlon. Mais c'est comme ça. Faut se prendre en main. Les systèmes sont défaillants. Même la DGSE, tiens, dont on vient d'apprendre que deux anciens agents ont été retournés pour livrer des informations à la Chine. Et quelles informations? Eh ben, ils auraient révélé tous les détails du fonctionnement même de la DGSE à des Chinois émerveillés qui seraient désormais à même de reproduire à l'identique le nébuleux système de retraite par points des services secrets français. Méfiance donc. Enfin voilà, si les systèmes défaillants ne manquent pas, ce sont les héros qui semblent faire défaut. Sauf cette semaine où, à lui seul et par son geste héroïque, Mamoudou Gassama a réussi à triompher d'un système défaillant de la gestion du droit d'asile. Il a, comme on l'a tous vu, obtenu ses papiers en escaladant par les balcons quatre étages d'un immeuble d'habitation. Donc pour ce jeune Malien, qui a déjà franchi une dizaine de frontières et traversé la mer pour arriver ici, ça ressemble un peu à la dernière épreuve d'un interville macabre. Mais bon, il a eu ses papiers. Et on sait donc ce qu'il reste à faire pour résoudre le problème des migrants. Suspendons des bébés à nos fenêtres. Alors attention, il faut bien les accrocher parce que sinon le bébé ne sert qu'une fois. Et puis, pas que au quatrième, parce que y a aussi des mères de famille peu entraînées pour qui le quatrième par les balcons, c'est un peu haut. Enfin bon, là aussi, les citoyens peuvent se mobiliser. L'orage gronde et tout le monde peut redevenir un héros. Levez-vous vite, orage désiré qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie. Écrivait Chateaubriand il y a plus de 200 ans. Eh bien, cette autre vie, on sait qu'elle est là et on rêve tous de la solitude du héros, tous, chaque soir, assis seuls dans nos salons en écoutant tomber la pluie.
Thomas Bideguin. Et vous savez quoi? Après du Thomas Bideguin, il vaut mieux passer un disque.
Quelle bonne idée!
Oh oui! Comme ça, on vous laisse réfléchir à cette jolie dissertation que vous pourrez écouter sur franceinter.fr. Merci Thomas Bideguin!
Oh, avec plaisir!
Et nous sommes en compagnie d'André-Joseph Bouglione sur France Inter.
Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grand large, je te détache, tu me dérives. Oh, tue-moi encore. Oh, tu me tues, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles. Je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Oh, tue-moi encore, oh, tu me tues, assassine de la nuit. Assassin de la nuit, assassin de la nuit. Assassin de la nuit. Oh, oh. Je te hausse, tu me noies, je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines, je te démon, tu me divines. Oh, tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert, tu me déportes. tu me grand large, je te détache, tu me dérives. Oh, tu m'as encore, oh, tu me tues, assassine de la nuit.
Arthur H. sur France Inter, par Jupiter, où nous sommes en compagnie d'André-Joseph Bouglione et de Cirque. On va en reparler tout de suite après Guillaume Meurice.
Oui, c'est moi. Bah, vous en avez marre de bouffer de la merde, les amis. Eh bah, ben, il va falloir s'habituer. Cet après-midi est votée définitivement la loi alimentation à l'Assemblée, qu'on appelle Egalim, et qui fait la joie de tous les gastro-entérologues du pays. L'action Smecta a pris 12 points à la Bourse de Paris. Faut dire qu'ils y sont allés fort. Nicolas Hulot n'a jamais avalé autant de couleuvres d'un seul coup. Gourmand croquant, les couleuvres radicaux. En avant les pesticides dans les biberons, les antibiotiques dans les marmites, plus rien à taper, on va tous crever mais avec panache. Et moi je suis allé voir les députés ce matin pour fêter ça avec eux, puisqu'ils ont correctement rien branlé. Pour que rien ne change, on commence par une première promesse passée à la trappe, la vidéo obligatoire dans les abattoirs, et on écoute le député de La République En Marche, Guillaume Chiche.
On peut légiférer en disant, par exemple, on met de la vidéosurveillance dans tous les abattoirs. Ça pourrait être très bien.
Ben oui, pourquoi vous l'avez
derrière,
pas fait alors?
Et ben derrière, si, dans la vie réelle, les exploitants des abattoirs ne s'y plient pas, eh ben, je pense qu'on n'aura pas gagné pour autant.
Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas voter des lois parce qu'elles ne vont pas être appliquées, elles risquent de ne pas être appliquées.
Non, ce que je dis, c'est qu'une loi, elle doit être comprise. Elle doit être claire.
Ah, là, si on dit par exemple la vidéo dans tous les abattoirs, où est-ce que vous ne comprenez pas?
Moi, je ne légifère pas juste pour me faire plaisir.
Non, ça on avait pigé, et il légifère pour faire plaisir à Macron et à Charal, ça on avait bien compris. Alors, pour être précis, la vidéo, elle pourrait exister sur la base du volontariat. Donc, il faut qu'il y ait un abattoir qui se dise... Tiens, ben regardez, je vais vous montrer comment on défonce les vaches à la tronçonneuse ou on castre les porcelets à vif. Vous allez voir, c'est rigolo, ils se débattent, on dirait Éric Woerth en garde à vue. D'ailleurs, l'amendement qui proposait d'interdire la castration à vif des porcelets a lui aussi été refusé. Qu'est-ce qu'elle en pense, la députée En Marche, Sereine Mauborgne?
Oui, en même temps, après, reste à savoir quel est le ressenti des porcelets en question. Je ne sais pas, je n'ai pas de notion.
Ah oui, peut-être ça leur fait plaisir.
Question-là, je crois pas. En même temps, il y a des sénateurs qui sont des anciens vétérinaires qui disent que c'est pas forcément un sujet capital.
Est-ce qu'on pourrait castrer à vif les sénateurs pour qu'ils aient un avis un petit peu plus précis?
Je vous laisse l'appréciation de ce type de propos.
Moi, je suis un homme de solution, attention. Hein. Le porc, c'est un animal qui se rapproche beaucoup physiologiquement de l'homme. Pas seulement d'Hervé Weinstein ou de Gérald Darmanin, hein, je veux dire de nous tous. Alors, tentons l'expérience, on les attire avec des petits fours aux truffes et bam, Farinelli, ça se tente. Autre amendement retoqué, on en a pas mal entendu parler, l'interdiction du glyphosate n'a donc pas été votée.
Non, parce que en fait, la promesse, elle est pour après 2020, donc ça veut dire qu'il faut continuer à travailler là-dessus avec les agriculteurs en concertation, avec les députés qui choisissent de s'emparer de ces sujets-là.
Mais pourquoi ne pas ministère. L'avoir mise dans la loi finalement? Parce que c'est ça qui était attendu.
Alors, en fait, ce qui est important, c'est de créer du contexte. Le mettre dans la loi pour ne jamais avoir de décret d'application, ça n'a aucun intérêt.
Ah ben non, mais là, on parlait de le mettre dans la loi pour avoir un décret d'application.
Évidemment, alors ça, on va toujours vers le... le mieux étant l'ennemi du bien. Hein.
Ah. Donc, voilà. Et on se demandait pourquoi ils votaient des conneries, c'est parce qu'ils ont peur de faire mieux. Et ça, je dirais que je peux comprendre. C'est vrai que Pablo s'évertue à faire des chroniques tout à fait médiocres chaque semaine.
De peur
du mieux. C'est vrai,
et ça,
je comprends très bien Pablo. Alors, l'amendement au glyphosate, il faut le signaler, il a été soumis au vote hier à 1h40 du matin. Qu'est-ce qu'il en pense, le député En Marche, Mustapha Labid?
Que ce soit passé hier à 1h40, c'est un hasard de l'avancée du texte de loi. Hein,
mais au final, est-ce que c'est pas dramatique que ça ait un impact sur la santé?
Rien, le mot est fort, dramatique.
Ouais, c'est vrai que non, mais j'ai tendance à dramatiser. Dès que je vois plein de métastases au même endroit, j'ai tendance à flipper, c'est mon côté froussard. Mais il y a pire que moi, hein, je connais même des gens qui ont peur de faire de la chimio. Alors, c'est quand même vachement sympa la chimio, notamment au niveau des économies chez le coiffeur. Alors j'ai continué à discuter avec Mustapha, qui m'a un peu expliqué comment ça se passe dans les coulisses de cette loi.
On a beaucoup de lobbies qui nous sollicitent sur ce sujet.
Mais ça veut dire que vous subissez la pression des lobbies?
Ah oui, oui, alors... Sur Egalim, c'est une centaine de mails par semaine, c'est tous les jours.
Mais alors c'est des lobbies de quoi?
Des industriels et les petits mails pas gentils en notre direction pour nous rappeler qu'on est dans l'erreur.
Voilà comment ça marche. Donc tous les jours, des mails, des gentils lobbies, ça fait plaisir. Et alors pourquoi le lobbying ça marche? Eh bien parce qu'un député, c'est influençable. Alors on va prendre un exemple qu'on connaît bien, Jean Lassalle. Alors Jeannot, bon, en vrai, les animaux, on n'a rien à taper. Ah, ils butent des ours à la machette, ils chassent le sanglier à main nue. Mais quand même, l'agriculture industrielle, il aime pas ça. En tout cas, il dit qu'il aime pas ça. Donc, il savait pas quoi voter. Alors du coup, bah, je l'ai aidé.
C'est-à-dire qu'on est pris au piège de texte
qui n'ont ni queue ni tête.
Ah bah du coup, vous pouvez voter contre alors.
Oui, voter contre, c'est dire que cette tentative, ne serait-ce que dans l'écriture, de remédier aux choses et à la bonne santé animale, je la refuse aussi.
Donc, ah bah non, là il n'y a rien qui protège les animaux.
Oui, vous avez peut-être raison. Finalement, on gagne à discuter.
Alors qu'est-ce que vous allez voter alors?
Laissez-moi faire. Mais je pense que je...
On vous l'espère?
Non, je pense que je vais voter contre.
Ah ben voilà, alors faudra vérifier quand même, parce que c'est cet après-midi, c'est en ce moment. Mais voilà, vérifier c'est un travail, mais ils sont influençables. Donc autant que ce soit pour l'intérêt général, les adresses des députés sont disponibles sur le site de l'Assemblée, démerdez-vous. Et n'oubliez pas que ceux qui votent, ce sont nos oignons. Donc autant que ces oignons ne soient pas pleins de glyphosate ou pleins de plus-value pour l'agriculture industrielle.
Merci Guillaume Meurice. André-Joseph Bouglione, vous auriez envie de réagir? Vous êtes rassuré là? On attend entre de bonnes mains, c'est bon.
Ouais, c'est triste quand même, hein. Ah oui, c'est triste. Enfin, je veux dire, sur tous les petits amendements qui pouvaient améliorer la condition des animaux, au moins un ou deux auraient peut-être pu passer, mais là, zéro.
Enfin, que je veux dire, c'est assez... rien.
La condition des animaux améliorant la condition de l'homme.
Ben, je pense aussi, ouais, c'est lié.
André-Joseph Bouglione avec nous, à venir Pablo Mira, reparlons cirque. On a beaucoup entendu au début du mois le cirque Pinder placé en liquidation judiciaire, et puis il y a aussi le débat donc, sur le spectacle des animaux en captivité ou les cirques sans animaux, et tout cela amène à se demander si le patrimoine culturel du cirque itinérant est en voie de disparition. À côté de cela, il se renouvelle de façon sédentaire, d'après la presse, parfois de façon plus théâtrale, tantôt plus commerciale. Bref, le sort des circassiens ressemble à celui des auto-entrepreneurs un peu.
Roland, je vais avoir un petit problème pour ce soir.
Tu peux pas jouer.
Si, mais j'ai un dîner en ville avant.
Bon, alors on décale tous les numéros et tu passes en deuxième partie.
Non, c'est pas la peine, quand Ficelle aura fini, tu me l'envoies. Il me remplace au resto et je rapplique.
Oui, mais le cirque d'un côté, les éditions de ton père de l'autre, tu as joué sur les deux tableaux pendant combien de temps?
Eh, heureusement qu'on les éditions de mon père. On vivrait de quoi? Des recettes, peut-être?
On joue dans des banlieues fauchées et tout le monde resquille.
Oui, ben ça, c'est un autre problème. On a besoin de l'argent que je gagne là-bas.
Il faudra bien que tu choisisses un jour.
Eh ben, je viendrai au cirque quand il marchera tout seul, malin.
Extrait de L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Alors, André-Joseph Bouglione, dans le livre, vous expliquez que les années 90, c'était l'époque bénie du cirque. Mais à partir de 2001, il y a une vraie baisse de fréquentation.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé alors
entre les années 80 et 90 sont une époque bénie du cirque, ça a duré 14-15 ans à peu près. Et il faut dire qu'après 2001, petit à petit, on a vu une baisse de fréquentation en général. Mmh. Voilà.
Et vous avez cherché des explications à ça,
Oui, bon alors après, on trouve aussi des solutions. On intensifie le commercial, enfin voilà, on fait plus de publicité, on fait moins de villes, enfin plus fréquemment. Et ben, finalement, à un moment donné, il y a plus de solution. Quoi qu'on fasse, la fréquentation continue à baisser, à baisser, à baisser. Regardez.
Il y a le prix aussi. Moi, j'ai souvenir que le carré or au cirque, c'est cher.
C'est cher.
Un beau cirque,
alors, j'ai pas d'ordre d'idée, mais c'est combien un carré or?
Alors nous, par exemple, pour l'éco-cirque, on va prendre une politique tarifaire très démocratique, comme on avait avant, même avec des animaux. C'est-à-dire que notre tarif médian sera à peu près à 20 euros, entre 20 et 25, avec des tarifs de place à 10, 12 euros. Pour les produits, pour les tickets d'appel, et puis des places plus chères dans les 40-45 euros. Voilà, enfin, ça, il y en aura pour tout le monde. Hein. Ouais.
C'est-à-dire que l'éco-cirque et la manière dont vous le mettez en place ne sera pas plus cher qu'avant, quand vous n'étiez pas éco?
Non, pas du tout. On va faire plus d'efforts, on va certainement dépenser plus d'argent, et on se base aussi sur d'autres choses. Par exemple, le village de l'éco-cirque, il faut s'imaginer un marché de Noël permanent, tout autour du chapiteau, mais sur une thématique écologique. Voilà, donc on pourra faire du shopping, manger un morceau, écouter un concert, gratuitement, bien entendu.
De djembé.
Voilà, et du djembé ou d'autres, enfin voilà, plein de choses. Ça sera très ouvert.
Un cirque bio, quoi.
Voilà, un cirque bio, écolo. Et pas forcément très cher. Enfin, ça doit rester démocratique. Hein. Le cirque est un métier populaire.
Mmh. Et ceux qui, alors, il y a une querelle des anciens et des modernes. On comprend bien. Ceux qui continuent avec les animaux vous imputent le fait que le cirque est en question. Et vous qui travaillez sans animaux, dites bah non, c'est vous qui
qui plombez la chose. Comme si le problème avait commencé il y a un an. Ouais. Parce qu'avant que j'en parle, il y a un an, c'était en mai 2017 seulement les premiers articles sur notre démarche avec l'éco-cirque 100% humain. Mais Le problème avait commencé bien avant, sinon je n'aurais pas pris conscience.
Même le cirque Barnum, où travaille votre épouse,
oui.
S'est cassé la gueule, alors que le cirque Barnum, c'est quand même le maître des cirques.
Et c'est en Amérique où personne ne me connaît, et c'est arrivé pratiquement le jour ou le lendemain du premier article qui traitait du sujet de l'arrêt des animaux chez moi. Donc je n'en suis pas responsable, et la raison de l'arrêt de Barnum, c'est compliqué. C'est-à-dire que ils ont gagné pendant plusieurs années, pendant presque 15-20 ans, tous les procès contre les associations animalistes. Très bien. Donc ça leur a même rapporté de l'argent finalement, en dommages et intérêts. Sauf qu'ils ont perdu la bataille la plus précieuse. Ils ont perdu la bataille avec l'opinion publique, la bataille de l'image. Ils ont perdu l'amour de leur public. Ce qui faisait que, quoi qu'ils fassent, même s'ils avaient déjà décidé et annoncé qu'ils arrêtaient de présenter leurs éléphants en piste, eh bien plus personne ne venait les voir. Voilà.
Et en France aujourd'hui, il y a à peu près quoi 2000 animaux qui sont comme ça en...
Il y aurait à peu près 2000 fauves. Ouais. Faut rajouter à ça quelques éléphants, pas beaucoup, peut-être 15-20, et un certain nombre d'autres animaux domestiques comme des chameaux, des lamas.
Et en ce moment, du côté de Nice, une polémique sur l'éléphant du cirque Medrano d'ailleurs, qui accélère cette prise de conscience.
À partir du moment où il serait bien traité, parce qu'il faut quand même, là, on est en train d'accabler le cirque à animaux. À partir du moment où il serait bien traité, moi, j'avais, en tant que gosse, quand on mettait la cage, j'avais comme ça un petit frisson qui me plaisait.
C'est vrai.
Est-ce que je suis un salaud ?
Non, pas du tout, mais ce frisson, je l'avais aussi.
Je me dis oui, moi. Non, mais c'est la question du bien traité. Est-ce que priver de liberté, c'est déjà une forme de mauvais traitement ?
Eh bien, voilà, vous avez...
Merci, allez, j'y vais. Allez, bisous. Bisous, Charline.
On fera bisous après.
Faites attention, restez bien de droite, parce que c'est à vous, Papa Mira.
Autant pour moi.
Attention, petit...
Les rembêtes.
Oh là là,
les rembêtes.
La mouche dans le lait.
Mais c'est la vérité, à partir du moment même qu'on les traite bien ou mal. Le problème est que ce sont des animaux qui sont en voie d'extinction à l'état sauvage, et que entre nos mains, ils n'ont pas d'autre perspective que de mourir en cage, de mourir en prison, quoi. Et ça, pour un être humain, ça nous choquerait tous. Voilà. Alors je me suis demandé pourquoi ces animaux que moi j'aime, que je couvrais d'amour, en fait, depuis leur naissance jusqu'à la mort, mais pourquoi je les mettais en cage? Il y avait aussi un problème, un travail sur moi à faire à l'époque.
Et aujourd'hui, donc, ils sont en refuge pour terminer paisiblement.
Oui, tout à fait.
Un emploi, enfin.
André-Joseph Bouglione, je rappelle que votre livre s'appelle « Contre l'exploitation animale », où vous expliquez ça très très bien, noir sur blanc, aux éditions Tchou, T-C-H-O-U. Et il est 17h48, l'heure de parler sport avec celui qui ferait bien de s'y remettre.
Ouais.
C'est Pablo Mira. Bon, Pablo, vous... Oui, vous revenez sur les droits télé de la Ligue 1 qui viennent d'être shippés à Canal+ par les groupes Mediapro et Beansport.
Oui, Charline, le foot sur Canal+, c'est fini. Clap de fin dès la saison 2020. Dans deux ans, donc, la seule façon de voir un homme riche et en sueur sur la chaîne cryptée, ce sera en regardant Yves Calvi se lever de sa chaise à la fin de l'émission, l'info du vrai. Tiens, petite infidélité à Gérard Larcher. Aujourd'hui, GG ne m'en veut pas, c'est pas ce que tu crois. Alors, cet événement, le rachat des droits à Canal+, les droits du foot, eh bien, est vécu comme un séisme audiovisuel, car ça faisait 34 ans que la Ligue de football professionnelle, la LFP, et Canal+, étaient partenaires. Et c'est vrai que c'est jamais facile de se séparer d'un ami de 30 ans, 35 ans. Alex l'a vécu il y a quelques années quand ses abdos ont décidé de quitter son ventre. Vous inquiétez pas, Alex, j'ai eu de leurs nouvelles. Ils vont bien, ils ont refait leur vie dans le corps de Mamoudou Gassama. Ah oui. Le foot et Canal, c'était donc une relation qui remontait à longtemps. Moi-même, voilà, petite anecdote, j'ai découvert ce sport, le foot, sur Canal, à 8 ans, je m'en souviens très bien, ce match, c'était Nantes-Bastia, et je crois que je serai toujours marqué par les larmes de ce joueur corse, je crois qui avait raté une action cruciale en tapant par erreur dans le ballon alors qu'il visait la gorge de son adversaire, ou celle d'un jeune ramasseur de balles, je ne sais plus bien. Tout ça pour vous dire que oui... Cette perte des droits télé, c'est une page qui se tourne, mais c'est pas un drame non plus, déjà parce que, et là les amoureux de sport seront rassurés, Canal possède toujours les droits du golf, et pour longtemps, si, franchement, le golf c'est super, hein, c'est un peu comme un ralenti de foot, mais à vitesse réelle. Pendant 5 heures, faut aimer ça. Et pour ceux qui sont pas fans de golf, eh bien regardez, j'ai sous les yeux la programmation de Canal+. Il y a de superbes compétitions prévues sur la chaîne. Ligue 2 de waterpolo, championnat de France de handball amateur, sans parler de la coupe anglaise de Shifumi aquatique. Vraiment, les amateurs de sport seront contents. Mais surtout, la perte du foot français n'est pas un drame, parce que selon moi, Canal n'a plus besoin de Ligue 1. Bah oui, mais les gens, ils en ont marre de voir des millionnaires jouer comme des pieds sur un terrain. Hein. Aujourd'hui, ils préfèrent le cinéma français et voir des millionnaires jouer comme des pieds tout court. Parce que on a un peu tendance à l'oublier, mais à la base, Canal, c'est la chaîne du 7e art. C'est Canal qui finance le cinéma français. C'est donc grâce à Canal qu'on aime autant le cinéma américain. Alors, les producteurs de cinéma s'inquiètent, hein, ils craignent concrètement qu'il y ait une érosion des abonnés et donc une diminution de leur financement. Mais moi, je ne crois pas que tout ça aura un effet néfaste sur les films français. Aujourd'hui, la seule chose qui fait mal au cinéma hexagonal, c'est ce producteur qui continue de dire, tiens, appelez-moi Philippe Lachaud. Non, faut arrêter de s'exciter pour rien. La situation n'est pas si désespérée que ça. Depuis quelques années, déjà, le groupe Canal a même su fédérer un large public avec ses créations originales. Et là, il y en a pour tous les goûts. Je vous en cite quelques-uns. Il y a, pour les fans d'histoire, voilà, il y a Versailles. Pour les fans de thriller, ils ont le Bureau des légendes. Les fans d'horreur pure ont n'importe quelle intervention de Pascal Pro sur CNews. Financièrement aussi, ça se passe très bien, le groupe Canal. Alors, oui, les mauvaises langues, je sais ce que vont dire les mauvaises langues. Elles vont dire, oui, mais les revenus publicitaires du groupe Canal sont en chute libre depuis 5 ans, en étant passés de 160 millions à 16 millions d'euros. Mais on peut en faire des choses avec 16 millions d'euros, comme par exemple se payer les conseils d'une agence de com' de crise pour tenter de faire croire qu'on peut en faire des choses avec 16 millions d'euros. Mais on peut aussi, moi je vous le dis, on peut aussi faire confiance aux dirigeants du groupe Canal, ces fins stratèges qui ont récemment dégainé, je cite, une arme anti-Netflix. Alors cette arme anti-Netflix, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une offre à 9,95€ qui sera sans pub, sans engagement et sans succès. Non, sincèrement, je pense que comme toujours, Canal+ saura se sortir de cette situation délicate parce que c'est une chaîne mythique. C'est une chaîne mythique, Canal, qui est dans le cœur de tous les Français, je crois. Quand je pense au nombre, moi, de talents que j'ai découvert en regardant Canal, les nuls Alex, Jamel, Omar Sy, Kamel le magicien, il faut le voir, moi je vous le conseille personnellement, il a un tour très impressionnant, Kamel le magicien, il arrive à se désabonner de Canal en moins de 6 mois, impressionnant. Pour conclure, oui, cette perte des droits télé du foot est une déception pour Canal, très concrètement, mais la chaîne, je le dis, a encore de beaux jours devant elle, 581 jours au total, j'ai compté. Après on sera en 2020 et là ce sera un petit peu plus compliqué pour eux, allez. Salut.
Merci Pablo Mira. Pablo, qu'on retrouve, c'est toujours au...
Vendredi, samedi au Sentier des Halles.
Ah, voilà.
Et à Avignon après avec toute l'équipe. Il y aura du monde.
On aura l'occasion de donner la salle et de reparler d'Avignon. Pablo Mira, merci. Nous sommes toujours en compagnie d'André-Joseph Bouglione, son éco-cirque et son livre contre l'exploitation animale, ses engagements. Édition Tchou, T-C-H-O-U. C'est quoi comme maison d'édition? On ne connaissait pas, nous, Tchou.
Eh bien, c'est à Paris, à côté de la place des Victoires.
Ah, très bien. Et on salue nos...
Et ils sont formidables, je leur fais un petit bonjour.
Ils sont choux, c'est ça que vous allez me dire. Ah, très bien. Allez, à Londres, les artistes qui se produisent dans la rue ou dans le métro acceptent la carte bleue sans contact. C'est leur smartphone qui sert de terminal bancaire. L'idée est de commencer à s'adapter à un monde sans argent liquide. Mais aussi, donc plus d'excuses pour ne pas mettre son obol dans le chapeau. Bien sûr.
T'as juste à faire un virement de minimum 5 euros par mois et pour ça, bah, c'est super simple, j'ai juste besoin de ton RIB.
Je suis désolé, j'ai pas de RIB, vraiment je dois y aller.
Bah attends, c'est quoi ta banque?
LCL.
Ah bah y en a une juste là, on peut y aller tous les deux.
Ah oui mais non, caisse d'épargne.
Je crois qu'on a de la chance.
Peut-être pas tant que ça, parce que c'est fermé.
Non, mais je connais très bien le gardien, il pourra nous faire rentrer sans problème.
J'ai rendez-vous chez le médecin, je suis désolé, il faut absolument que j'y aille.
Attends, on fait un. C'est une petite angine. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais donner des comprimés. Tu les prends matin et soir pendant les repas. Et d'ici 3-4 jours, ça ira beaucoup mieux. On y va ?
C'est un extrait d'un sketch de Studio Baguel pour illustrer ce sujet. Donc sur les artistes de rue, donc dans le métro aussi, auxquels on a la possibilité de payer avec la carte bleue comme ça, sans contact. Alors quelle question ça pose ? Bon, artistes de rue itinérants par nature, désormais connectés à un terminal de paiement. Est-ce que vous pensez que ça peut améliorer leurs conditions ? Vous trouvez que c'est une chouette avancée ?
Ah, aux artistes de rue, c'est possible, ouais. Oui, tout à fait. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y aura plus le petit charme du tintement des pièces qui sonne. Dans le chapeau, comme ça, c'est sympa aussi. C'est une époque. Après, moi, c'est vrai que pour les artistes de rue, c'est plutôt un progrès. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec la disparition de la monnaie, en fait, des petites pièces, c'est pour les SDF.
Comment on va faire ?
Parce que est-ce qu'ils auront les moyens de s'acheter un smartphone ? Ouais. C'est fou, quoi.
C'est-à-dire que le SDF, dans un monde sans argent liquide, il est encore plus marginalisé.
Ouais, à moins de, dans ce cas-là, de faire un revenu... universel pour les SDF dans ce cas-là. Ouais. Ok.
Je vais monter une assoce un terminal pour un SDF et donc qu'on puisse leur payer le terminal pour que le sans contact fonctionne parce que voilà, c'est vrai que
un smartphone.
Oui, c'est vrai. Que comme quoi le revenu universel si on n'a plus de monnaie, ça c'est un argument de plus.
Ah oui, mais Benoît Hamon il a fait 6%.
Ouais, ça, c'est qui bon. Les Français sont pas bouillants.
J'ai pas la référence.
André-Joseph Bouglione, on voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord.
Ah, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, il découvre. Hein, vous êtes Emmanuel Macron, le dompteur.
Alors moi, je suis Emmanuel Macron.
Oui, parce qu'il a réussi un numéro de domptage, de dressage brillant avec ses ministres, notamment Christophe Castaner, qui est à côté de lui, oui, qui est Guillaume Meurice.
Oui, je suis en train de lire un petit peu.
Il n'y a pas de piège.
Bon, j'y vais.
Il n'y a pas de piège, on y va. On se rend à l'Élysée.
Je reprendrai bien un coup de fouet.
T'aimes ça, hein?
Ah, c'est vrai, j'aime bien ça.
Allez, mon Castaner, sur tes pattes arrière.
Oh, oui, maître Macron.
Donne la patate.
La papate, même avec plaisir, les deux papates.
Non, la papate droite.
Oh, vous êtes un bon, mes maîtres.
Qu'est-ce qui te plaît chez moi?
Votre intelligence, votre vivacité, votre puissance physique.
C'est bien, c'est très bien. C'est un bon cri-cri à son manu.
Je peux avoir un sucre.
Bien sûr. Mais tu n'as pas de choses à me dire?
Si, Marlène Schiappa, elle en fait qu'à sa tête.
Quand le shampoing coule sur mes épaules, mon ventre, mes jambes, j'en ai partout et je me lave les mains avec ce liquide blanc, je patauge dedans.
Mais qu'est-ce qu'elle dit?
Ah là, elle récite un passage de son chef-d'œuvre littéraire.
Moi, j'ai pris la forme de manucure de ma tante Martine, le parfum de ma grand-mère Andrée, les gestes tendres de mon arrière-grand-mère Mina.
Marlène, ça suffit, tais-toi!
Mais je m'insurge! Vous n'avez aucun droit sur moi!
Ah, c'est qu'elle est sauvage, l'animal!
Non, je suis une femme!
Oh là, tout doux, Marlène, rentre tes griffes!
Jamais, vous feriez mieux de vous préoccuper de Nicolas Hulot!
Ah, il est où encore, Ushuaïa?
Ah, il est là-bas, c'est lui qui dort en boule dans un coin de la cage.
Très bien, tu as très bien rapporté mon cri-cri.
Glyphosate, nucléaire, huile de palme!
Qu'est-ce qu'il a?
Je crois qu'il avale une couleuvre sur couleuvre.
Ah, tant mieux. Ça fait un excellent numéro de cirque.
Pesticides, perturbateurs endocriniens.
Non, mais tu t'attendais à quoi? À un cirque écologique et 100% humain?
Ah, excellent, excellent, maître.
Et c'est quoi ces éléphants qui se balancent à l'arrêt?
Ah, ça, c'est le Parti Socialiste.
Ça existe encore, le Parti Socialiste?
Ah, vous êtes impayable.
Et celui-là, pourquoi il gueule si fort?
Ah, lui, c'est Mélenchon.
Il peut pas se taire un peu?
Oh, je crois que vous aurez quand même plus de chances de dompter Marlène.
Vous n'avez pas perdu les réflexes.
D'ancien dresseur, André-Joseph Bouglione. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci de m'avoir invité, c'était formidable, une super expérience. Merci.
Merci de nous faire partager votre amour du cirque sans animaux qui laisse la place à plein d'autres numéros et compétences et plein d'autres artistes. Vous pouvez aller voir sur le site de l'éco-cirque.
Tout à fait, éco-cirque wawa.fr, enfin je ne sais plus.
Exactement, oui, on trouve facilement. Si vous tapez éco-cirque Joseph Bouglione, vous allez trouver et voir s'il passe près de chez vous. Et je rappelle votre livre « Contre l'exploitation animale » paru aux éditions Tchou. Et je vous remercie aussi à toute l'équipe, à la préparation Mathilde Verfailly, Sarah Masson, Nathalie Romero, assistée de Mathias Volant, pour les blagounettes, Frédéric Fromet, Antoine Asdé, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Merci à tous. On se retrouve demain avec Françoise Fabien. Et si on laissait le mot de la fin quand même à Sergio, à Serge Dassault.
Allez. Alors je voulais vous dire, les élections municipales conditionnent les élections sénatoriales. Parce que ce sont les élections. Les